Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette émission Club de la Presse. La situation des détenus politiques devient de plus en plus inquiétante. Environ 93, selon le Front Touche pas à ma Constitution, on enregistre parmi eux des malades et même des décès compte tenu de la détérioration de leurs conditions de détention. Le Front Touche pas à ma Constitution, après avoir effectué une visite à la prison civile de Lomé la semaine dernière pour constater la réelle situation de ces détenus, exige une fois encore leur libération immédiate. Énième appel du Front aura-t-il un écho favorable auprès du pouvoir public, si tant est que le secrétaire du gouvernement réitérait tout récemment qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo? Que faut-il faire pour être plus écouté? Je poserai la question à notre invité, Nathaniel Olimpio, président du Parti des Togolais et porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution. Nous aborderons d'autres sujets aussi de l'actualité, tels que la vie chère, et aussi nous irons à l'étranger pour parler du Sénégal et aussi du Gabon. Mais c'est bien sûr avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Chers auditeurs, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 20 novembre 2024. Derrière la baie vitrée, c'est Kiki Soussa. La mise en ligne est assurée par Jérôme Akoucha. Je suis Pascal Lousseau au micro. Merci de nous suivre partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Amiko, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et là, vous comprenez que nous couvrons tout le Togo avec cette émission Club de la Presse. N'oubliez pas, vous qui êtes hors de nos frontières, vous pouvez aussi nous suivre à travers nos médias en ligne, notamment nos pages Facebook et aussi YouTube, et également des radios en ligne, partenaires bien sûr, lors de cette émission, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays et aussi d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi aussi des invités. Confrères journalistes, Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Ça va, je profite de l'occasion pour faire un coucou à nos confrères de la radio Courtoisie à Dapaon, hein, qui travaillent dans des conditions parfois difficiles. Et des décisions arbitraires qui sont souvent prises contre cette radio. Je crois que nous aurons quand même l'occasion d'en parler parce que ils font depuis quelques années office donc de quelques interdictions des autorités locales. Et certains vont jusqu'à leur demander de suspendre leur émission. Je parle de la radio Courtoisie à Dapaon.
On en parlait tout récemment.
On reviendra, on en parlera parce que il ne revient pas, hein, si vous voulez qu'on appelle les choses par leur nom, il ne revient pas à un préfet d'aller sur une radio et de demander à ce qu'on arrête une émission. La HAC est suffisamment investie de cette émission, donc il ne revient pas au préfet de la localité de demander à suspendre les émissions. C'est pas la première fois que ça se passe. Donc, nous demandons à ce que les autorités compétentes puissent regarder quand même de ce côté-là pour demander au préfet d'être dans son rôle. Voilà. Il n'est pas le représentant de la HAC dans la localité.
Merci beaucoup, Sylvestre, d'avoir répondu à notre invitation. Justin Anani, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Je vous rends grâce. Dieu merci. Bonjour aux confrères qui sont là avec nous. Bonjour à l'invité. Bonjour également aux fidèles de l'émission.
D'accord. Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Abassi Saka, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que tu vas bien.
On rend grâce.
Tu es toujours commandant?
Toujours commandant.
D'accord. Tu dois aller voir Patrick, c'est important.
Il est jaloux de ça. Parce que lui, il est jaloux de mon grade de commandant.
Ou bien
Je salue mon grand invité ici.
D'accord.
Il est à côté de moi.
Tout à fait. Il est à côté de toi. Nathaniel Olimpio, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je me porte très bien. Je suis heureux de partager ce studio avec vous les journalistes et qu'on soit écouté par autant de radios sur le territoire national. C'est très intéressant. J'en profite pour porter mes encouragements à Radio Centrale. Je sais
Centrale FM.
Oui, je sais quelles sont leurs conditions de travail et la pression qu'ils ont, et je voudrais donc leur témoigner mon encouragement et aussi mes félicitations.
D'accord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reviendrai tout de suite à vous pour le débat, mais je dois également, nous allons parler santé d'abord avant de rentrer dans le vif du sujet. Parlons santé avec Gadiel Tonadi. Gadiel, bonjour.
Pascal, bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
J'espère que vous allez bien.
Ça va.
D'accord. Monsieur. Alors, votre journal Santé, Éducation est dans la kiosque ce matin. Nous sommes au mercredi. Et voilà, comme d'habitude, bien sûr. Et ce matin, vous vous intéressez à un phénomène, c'est la nervosité. Et vous écrivez astuces pour évacuer la nervosité.
Oui, la nervosité, vous savez Pascal, c'est un phénomène qui touche pratiquement tout le monde. Vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours seulement, un gamin de 6 ans a tiré sur sa maîtresse aux États-Unis. Ça c'est quoi? On dit c'est juste suite à une petite altercation et l'enfant a sorti une arme et il tire sur sa maîtresse. Devant ses camarades. Donc, vous voyez, donc, la nervosité, ça amène très loin. Et on peut témoigner autour de nous, nous-mêmes, quand nous sommes pris part à ce phénomène, beaucoup n'arrivent pas à se contrôler. Alors, on pose des actes qu'on va regretter tout juste après. Et là, dans cet article, ça peut dire que la nervosité, elle se maîtrise, elle se gère. Comment on peut gérer le stress? Comment on peut se maîtriser quand on est anxieux, quand on est soucieux. Voilà, donc on peut gérer et évacuer cette nervosité. Et il faut vraiment recevoir des informations par rapport à ça. Il y a des thérapeutes qui aident des gens dans ce domaine parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des nerveux. Hein? Il faut les éduquer à se débarrasser de ce phénomène-là, de ce caractère-là. Mais, d'une manière générale, il faut comprendre que il y a des pratiques qui nourrissent la nervosité. Hein? Une certaine alimentation, ce qu'on peut appeler une mauvaise alimentation. Quand on se nourrit mal, quand on est nourri par les aliments transformés.
Quoi que dire, vous voulez nous dire qu'il y a un lien entre notre alimentation et aussi la nervosité?
Absolument.
Comment ça?
La mauvaise alimentation nourrit la nervosité. La mauvaise alimentation nourrit le stress, nourrit l'anxiété, nourrit la dépression. C'est comme ça. Donc, quand on n'est pas très regardant sur son choix alimentaire, on donne raison à certains phénomènes dans notre vie, à certains caractères, de grandir en nous et de faire vraiment des conséquences qui vont nous causer des problèmes. La nervosité, elle nourrit pas une mauvaise alimentation. Quand vous êtes friand au sucre, aux frites, à toute la bagatelle des aliments transformés. La norme nutritionnelle, c'est de se nourrir au moins, on va dire, à 80, 85, 90% d'aliments naturels. Bon, les 10 autres pourcents, vous pouvez. Mais chez beaucoup de gens, c'est le contraire. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez? La nervosité, c'est un phénomène qui agit très négativement sur la santé cardiovasculaire, sur le cœur, sur les nerfs, ça peut même conduire à faire une crise, à faire l'hypertension, à avoir des palpitations, à avoir des douleurs dans le cœur. Donc c'est un phénomène assez dangereux. Maintenant, dans cet article, il y a jusqu'à 5-7 astuces pour aider à commencez pas à gérer et évacuer la nervosité.
Alors, quand vous dites qu'il y a un lien entre l'alimentation, et vous avez cité même d'ailleurs aussi le sucre, si quand nous sommes alors très friands au sucre blanc,
ouais.
Nous sommes tous friands alors à cette alimentation. Et est-ce que ça veut dire que nous sommes tous nerveux?
Eh bien, vous regardez autour de nous, hein, regardez quand vous sortez dans la rue, comment on s'insulte, comment les gens réagissent.
Surtout dans la circulation.
Voilà, donc on nourrit la nervosité. Hein. Il y a des gens, après quelques années, vous allez voir qu'ils ont changé. Ça veut dire qu'il y a les phénomènes de la vie, il y a les difficultés de la vie. Mais quand ça nous met dans cet état de choses, après, c'est que nous nourrissons ce caractère, nous nourrissons ce phénomène dans notre vie qui grandit et qui peut nous conduire à poser des actes qu'on va regretter. Donc, c'est dit, c'est scientifiquement prouvé que on peut gérer et évacuer la nervosité. Il faut l'essayer en lisant cet article.
Il faut l'essayer en lisant cet article. Et il y a un autre article également que je retrouve à la page 3, et anxiété, dépression, revoir les habitudes alimentaires. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de dire concernant la nervosité, qui aura un lien avec et l'alimentation, je pense que c'est vrai.
Quand vous êtes dépressif, quand vous êtes anxieux, quand vous êtes stressé, il y a certaines alimentations que vous devez laisser tomber. L'alimentation est au départ et à la fin de toute chose, en tout cas de ce qui est santé. C'est l'alimentation. Ce n'est absolument rien d'autre. C'est l'alimentation. Donc, quand vous êtes anxieux et que vous avez une certaine alimentation, votre cas va s'aggraver. Pareil pour la dépression et pour toutes les maladies, Pascal. Quand vous avez le palud, par exemple, vous avez le plasmodium dans votre sang, on vous déteste cela. Votre alimentation doit changer. Voilà, vous devez manger pour aider l'organisme à ce que vous guérissiez. Est-ce que vous voyez? Mais si vous prenez certains aliments qui vont plutôt aggraver votre situation, vous n'allez pas guérir. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il y a des gens, ils vont à l'hôpital, ils vont rencontrer le médecin, on leur prescrit des soins efficaces, mais le rétablissement n'est pas ça parce que ils vont manger, excusez-moi, entre parenthèses, du bordel, ce qui fait que voilà, ça tarde à se mettre sur pied le traitement ou bien voilà, les soins.
D'accord. Oui, mais vous vous intéressez aussi à Novembre Bleu. Novembre Bleu, nous sommes dans le mois de novembre et vous êtes revenu alors sur cette interview que professeur Michel Kodzotenge, qui est chef service d'urologie au CHU Sylvanus Olympio, vous a accordé. Et vous écrivez interview Novembre Bleu, prévention du cancer de la prostate avec professeur Michel Kodzotenge, chef service d'urologie CHU Sylvanus Olympio.
Novembre Bleu, vous savez, il faut qu'on s'habitue. On était habitué à Octobre Rose pour les femmes, le cancer de sein chez les femmes. Maintenant, il y a Novembre Bleu pour le cancer de la prostate chez les hommes. Donc, on doit enrichir cela aussi parce que ce que le spécialiste dit là-bas, au moins 300 cas de cancer de prostate enregistré au niveau de son service. Donc, ça veut dire que la situation, elle est grave. Nous sommes combien de Togolais dans nos Togo, et à au moins, c'est à ce niveau seulement que c'est enregistré. Ceux qui n'arrivent pas au niveau des hôpitaux, ceux qui ne sont pas dans les statistiques, c'est plus que ça, est-ce que vous voyez? Donc, le cancer de la prostate, c'est une réalité au Togo, et on doit commencer par regarder cette pathologie, voir comment est-ce que il faut prôner la prévention. C'est quoi la prostate? C'est un organe. Donc, il faut faire la différence.
Voilà, ce n'est pas une maladie.
Voilà, il faut faire la différence entre l'organe et la maladie.
Tout à fait.
C'est un organe qui participe à l'appareil sexuel chez l'homme, qui sécrète un liquide, qui participe au bon fonctionnement des spermatozoïdes et qui permet aussi d'éjaculer chez l'homme. Voilà. Donc, le rôle de la prostate, c'est ça. Mais il peut arriver que cet organe soit touché par des maladies, et le plus dangereux, c'est le cancer de la prostate. Il y a des signes, on peut les répéter encore. C'est vrai que ce ne sont pas des signes qui sont particuliers au cancer de la prostate. C'est au niveau de l'urine, par exemple. Quand un homme à un certain âge ne commence pas à voir des troubles au niveau de sa façon d'uriner. Par exemple, quand vous allez uriner, c'est avec difficulté que ça sort. Vous poussez. Des fois, vous revenez sans uriner. Ou bien, l'urine vous prend. Le temps d'aller à la toilette, c'est déjà sorti. Mais l'urine vous prend sérieusement. Vous allez pour uriner, c'est juste quelques gouttes qui tombent. Et puis, la nuit, vous vous levez plusieurs fois pour uriner. Alors, quand il y a de tels signes chez un homme, déjà pas de 30 ans, pas de 35 ans, cette personne doit aller chez un spécialiste, un urologue, dans un CHU, c'est pas dans un CMS quelque part, c'est dans un CHU, voir un spécialiste pour lui expliquer ce qui se passe. Et là, si ça est d'une affection au niveau de la prostate, qu'on puisse le prendre en charge. Donc, le spécialiste est revenu sur les BA, en tout cas l'essentiel sur le cancer de la prostate, Nous recommandons cet article à tous les hommes.
D'accord, vous recommandez vraiment cet article à tous les hommes. C'est un article à retrouver dans votre journal Santé Éducation paru aujourd'hui. À la une du journal, je vois aussi un article très intéressant. Vous écrivez « Pelure, douaneau, traiter mauvaise circulation du sang et trouble alors du cœur ».
Absolument. Vous savez, Pascal, comme vous venez de le dire, vous savez, ce genre d'article, c'est pour faire passer un message. Et chaque temps, quand on sera dans ce studio, on le dira. Chers Africains, chers Togolais, n'ayons pas peur de faire des recettes maison. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a certains discours qui disent que c'est ça qui fait ci. Les recettes maison existent dans toutes les civilisations et c'est encore plus vieux que le monde. Hein? Quand on fait des infusions, des tisanes, cela participe à la santé. Donc pourquoi dans nos pays, on a tendance à nous dire que c'est mauvais? Surtout quand c'est des recettes qui sont publiées dans des publications scientifiques comme les nôtres, avec des doses bien réglées, il faut y aller. Mais dans l'Afrique d'hier, les infusions, les tisanes, on les faisait. On disait seulement allez chercher la feuille là, et faites l'infusion et puis buvez. Vous voyez. Donc c'est ça très important. N'ayons pas peur des recettes maison. Cela participe vraiment à la santé. Quand c'est bien fait, cela participe à la prévention des maladies et puis à participer au traitement de plusieurs maladies. Les pelures de l'oignon, ou bien ce qu'on peut appeler la peau de l'oignon, c'est très important. Vous savez, l'oignon, ce légume, c'est un légume avec plusieurs vertus sur la santé. Et surtout sur la santé cardiovasculaire, le cœur, les vaisseaux sanguins et tout, c'est très important. Et la peau, la pelure, a beaucoup de vertus, encore plus, sur la santé cardiovasculaire. Le sang qui circule dans le corps, normalement, cette personne, elle est en bonne santé. Mais quand il y a problème de circulation du sang, ça veut dire que les organes ne sont pas nourris de nutriments, parce que le sang véhicule les nutriments, et aussi de l'oxygène. Est-ce que vous voyez? Et puis le cœur. Si le cœur est malade, tout l'organisme est malade. Donc, dans cet article, il y a deux, trois recettes qu'on peut faire. Si vous êtes un hypertendu, si vous êtes un diabétique, si vous êtes en surpoids, en obésité, vous avez des troubles au niveau cardiaque, essayez de consommer la pelure de l'oignon. C'est de l'alimentation, hein? C'est de l'alimentation juste pour notre santé.
D'accord, juste pour notre bref. Santé, justement, bref, merci. Et ces recettes dont vous parlez, c'est à retrouver alors dans le journal paru aujourd'hui. Et si quelqu'un veut se procurer alors du journal, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi les conditions, Gadiel?
Bon, actuellement, la personne peut aller télécharger sur mon site internet, le journal numérique qui est disponible un peu partout. On peut l'avoir avec les différents transferts sur le site santé-education.tg, donc on a le journal numérique à 700 francs ou bien à 1000 francs le journal papier qu'on peut retrouver dans les kiosques et dans certaines pharmacies.
D'accord, Gadiel Sonadi, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir et nous lançons également l'appel aux uns aux autres alors d'aller se procurer du journal santé-éducation dans les kiosques. Alors ce matin, on retrouvera forcément tout ce dont nous venons alors de parler dans cette émission. Gadiel, merci. Alors nous revenons alors à notre invité, monsieur Olympio, rebonjour.
Bonjour.
Voilà, et tout de suite, nous sommes en train de parler de santé et on a parlé de l'alimentation depuis un temps. Au Togo, on a compris quand même qu'il y a cette question de vie chère qui est en train alors de dominer la société, de dominer le quotidien du Togolais, de telle enseigne qu'on a du mal même à acheter certaines choses compte tenu alors de l'inflation. Comment vous, en tant qu'homme politique, vous appréciez cette question de vie chère?
D'abord en tant que citoyen, parce que tous les Togolais se nourrissent, tous les Togolais vont au marché. Et personne ne peut nier aujourd'hui que c'est devenu très compliqué de remplir le panier et de rentrer à la maison, et de préparer et que les enfants puissent avoir à manger suffisamment. Et vous savez, en peu de temps, les coûts des produits de première nécessité ont flambé. Je vais vous donner juste quelques exemples. Vous prenez le bol de maïs. Je me souviens, parce que j'aime bien de temps en temps aller faire le marché, je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps, on achetait le bol de maïs à 400 francs. Aujourd'hui, le prix est monté jusqu'à 1000 francs par endroit, 800 francs de manière plus répandue. C'est excessif. C'est excessif.
Pratiquement le double, hein? Et plus du double, j'allais dire.
Et aussi, vous prenez le cas du bol de haricots. Ben, on l'achetait combien? À 2500 francs, oui, c'est ça? 2500 francs. Aujourd'hui, le bol de haricots, eh bien, on trouve ça à 4000 et parfois même à 4500 francs. Vous voyez que les salaires, pour ceux qui en ont, sont au même niveau. Et sans compter tous ceux qui sortent de chez eux chaque matin pour aller chercher de quoi se nourrir pour la journée, eux et leur famille. Donc, quand nous entendons très régulièrement le régime nous dire qu'ils ont un climat des affaires qui est performant, ils sont classés troisième dans le Business Ready de la Banque mondiale, troisième réformateur au niveau mondial. Je crois que dans le Doing Business, ils étaient premiers réformateurs. Et en Afrique de l'Ouest, ils sont les premiers. Toutes ces satisfactions que le régime manifeste régulièrement, mais on se demande quel est l'impact sur la vie quotidienne des Togolais. Au contraire, on ne voit qu'une dégradation. C'est pour ça que la nervosité dont parlait tout à l'heure notre ami, mais cela se comprend. Les populations sont stressées, sont tendues, parce que la vie, elle est extrêmement compliquée. C'est pour ça que, on ne le dira jamais assez, ce pouvoir doit remettre le peuple au centre de ses préoccupations. Oh, on doit sortir des discours. Et si c'était le cas, vous savez, Faure Gnassingbé au pouvoir, ça fait pratiquement 20 ans. Et il a donné un espoir aux Togolais en 2012, précisément le 26 avril 2012, quand, dans son discours à la nation, il a déclaré qu'il est conscient qu'une minorité accapare les richesses du pays. Tout le monde s'est dit « Waouh, enfin, quelque chose va changer. » Mais ce n'est pas le cas. Après cela, qu'est-ce qui a changé? Bien au contraire, on voit qu'il y a une corruption qui s'est généralisée. Et surtout, on voit qu'il n'y a pas de sanctions et que l'impunité se présente comme un encouragement à la corruption. Donc, la vie des Togolais et se dégradant, et ceux qui nous dirigent, eux, ils sont dans l'opulence. C'est ça le problème que nous avons et nous demandons, et c'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons pour que la jeunesse africaine, la jeunesse togolaise, sorte de la misère. On peut donner l'exemple des préfectures du Pendjal. 76% de la population de ces préfectures vivent dans l'extrême pauvreté. 76%. C'est considérable. Un autre chiffre également, et je m'arrête sur les chiffres, un autre chiffre, c'est qu'on note jusqu'à 33% des jeunes adultes qui sont au chômage. 33%. Donc, vous voyez que quand on regarde ces indicateurs, on constate que le travail que fait le régime aujourd'hui ne donne pas satisfaction. Il faut changer de méthode. Il faut changer de vision parce que nous ne voyons pas les résultats positifs de tous les plans qui ont été lancés au Togo depuis le SCAP jusqu'au PND et aujourd'hui la feuille de route. Même si on nous parle de la plateforme industrielle d'Adedikopé et que l'on fait des promesses, on nous a annoncé 500 000 emplois qui devraient être générés. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc, ce que nous demandons à ce régime, c'est de sortir de la propagande et de faire en sorte que la jeunesse togolaise trouve du travail et ne sombre pas dans cette désespérance qui fait que les gens n'ont plus d'espoir.
D'accord. Je voudrais qu'on insiste un peu sur cette question de Vichy, parce que on a tendance à croire que vous, les politiques, vous ne vous intéressez pas tellement à la question alors de la Vichy, tandis que c'est un vécu quotidien même des Togolais. Mais quand on voit les politiques, ils s'intéressent plus à la question alors à la question politique, c'est-à-dire les changements de constitution et tout. Est-ce que c'est parce que ça doit être laissé aux organisations de la société civile?
Vous pouvez dire ça de manière générale, mais lorsque vous me suivez, vous savez que je reviens régulièrement sur la question de la vie chère, parce que quand on viole la Constitution, on viole le quotidien des Togolais. Le fait de ne pas donner l'environnement qui permette à chaque Togolais de s'épanouir, c'est une violation de la Constitution. Le fait de jeter des gens en prison pour leurs opinions politiques, c'est une violation de la Constitution. En réalité, la vraie préoccupation des Togolais est de plusieurs ordres. Bien sûr, il faut manger tous les jours. Mais il faut aussi avoir une projection de son avenir. Les jeunes Togolais, aujourd'hui, n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de modèle auquel ils peuvent s'identifier quand ils se lèvent le matin en disant « Ah, moi je regarde cet homme, je regarde cette femme, je voudrais que ma vie soit comme celle de cette personne. Et je veux me battre pour ressembler à cette personne dans accomplissement. »
Mais là, est-ce que vous n'êtes pas un modèle, monsieur Olympio?
Ce que moi j'attends de ce régime, c'est de multiplier des modèles. Je ne vois pas un jeune Togolais venir me voir et me dire « Moi, je voudrais être comme ce capitaine d'industrie. » Il n'y en a pas, le capitaine d'industrie. « Je voudrais être comme ce chef d'entreprise. » Vous savez pourquoi? Parce que au Togo, pratiquement tous les chefs d'entreprise prospères sont obligés de faire la courbette au régime. Il n'y a pas de gens qui réussissent, je dirais, par eux-mêmes, malgré leurs opinions qui peuvent être différentes du régime.
D'accord. Voilà, mes confrères auront certainement une question pour vous. Et Sylvestre?
Non, écoutez, je voulais revenir un peu sur la question des détenus politiques. Et vous avez donné un nom, M. Karou
Wahim,
je crois.
Wahim, oui, justement.
Karou Wahim. Il n'est pas le seul. Hein. Je peux citer aussi Mme Nambe Leila, dont l'enfant ne reconnaît plus qu'elle est sa maman. Ou alors le cas de l'artiste Fadel, santé très dégradée.
Prince Fadel.
Voilà, pour Karou Wahim, quand nous sommes allés, il était très amoché. Et il était prévu qu'il rencontre les médecins lundi de cette semaine. J'espère qu'il a pu voir les médecins et que son cas est pris en charge, parce que c'est sérieux.
Justement sur ce point, c'est vrai que vous avez effectué une visite, je l'évoquais même d'ailleurs dans mes mots introductifs, vous avez effectué une visite la semaine dernière à la prison civile de Lomé pour constater de visu les conditions même de vie de ces détenus politiques. Concrètement, qu'est-ce que vous avez vu?
Ben d'abord, je voudrais quand même remercier les autorités et en charge des prisonniers pénitentiaires là-bas, les autorités qui nous ont permis cette visite. Et je dois vous dire que ce sont des vies brisées. On a l'habitude de dire qu'il y a tel nombre, 93, et les gens parlent de statistiques, mais en réalité, derrière ces chiffres, ce sont des vies brisées, ce sont des pères et des mères qui sont privés injustement de leur liberté et qui sont dans une détresse psychologique et considérable. Ceux dont la santé est déclinante aussi, ce sont des cas très préoccupants. L'heure est grave et il faut qu'on libère ces personnes-là. On doit les libérer, leur place n'y est pas. Certains sont là-bas depuis 6 ans maintenant, sans jugement. On ne sait même pas pourquoi ils sont incarcérés. C'est pour ça que nous interpellons encore une fois le gouvernement togolais, le régime togolais, pour que, ne fût-ce qu'à titre humanitaire, on laisse ces personnes sortir de prison. Le temps qu'ils ont passé est trop long et ils ne méritent pas d'être là-bas. Surtout que des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sont prises en faveur de leur libération immédiate. Voyez-vous, et le régime togolais refuse d'exécuter ces décisions. C'est pour ça que lorsque le ministre porte-parole du gouvernement déclare avec certitude et une certaine arrogance que le Togo ne dispose pas de détenus politiques, je crois qu'il faut sortir de ce narratif-là et de s'occuper du sort des Togolais. C'est ça qui est important. Il faut sortir de la politique politicienne et s'occuper de la vie des Togolais. Il faut libérer ces prisonniers politiques. Il est temps.
D'accord. Sylvestre ?
Justement, en parlant de gouvernement, je crois que il y a quelques semaines, le Front Touche pas à ma Constitution a rencontré le ministre des Droits de l'Homme. Je crois vous avez envoyé un document. Voilà, vous avez envoyé un document au ministre des Droits de l'Homme. Je crois que c'est Paco Madjourovi à propos de cette détenue-là. Est-ce que vous avez eu un retour? Sinon, que comptez-vous faire?
Nous avons adressé, effectivement, le Front Touche pas à ma Constitution a officiellement adressé une correspondance pour interpeller le ministre sur le sort de nos concitoyens. Bon, nous n'avons pas reçu de réponse. Et la situation des prisonniers se dégrade. Je ne sais pas si les dirigeants de ce pays ont conscience de ce que nous sommes en train de souligner quand le confrère du ministre Adjourovi nous déclare qu'ils n'ont pas de détenus politiques. Ça veut dire que c'est une négation. Il nie la réalité. Et on ne peut pas continuer comme ça à mentir aux Togolais juste pour faire bonne figure, pour plaire à son chef. Nous devons sortir de ces rhétoriques-là et nous parler sincèrement en tant que citoyens togolais et trouver une solution à cette situation inacceptable des détenus politiques.
D'accord. Lucien ?
Oui, monsieur Nathaniel, sur la base procédurale, certainement vous avez raconté les détenus. Vous avez des conseils de ces détenus-là. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à propos du fait que depuis lors, ils ne sont pas jugés?
Moi, je pars du principe que les avocats font un travail considérable. Mais il faut noter que nous sommes en face de cas de détenus politiques. Les avocats ont fait leur travail jusqu'à aller à la Cour de justice de la CEDEAO et ils ont obtenu une décision de libération. Quand cette décision n'est pas exécutée par l'État togolais, qu'est-ce que l'avocat peut continuer de faire? Il a déjà atteint son objectif. Et le reste relève de l'administration, de l'État togolais. C'est pour ça que tout devient clair qu'il s'agit de détenus politiques. Et donc c'est une décision politique qui doit les libérer.
Voilà, une décision politique qui doit les libérer. Ces détenus politiques ont été arrêtés en marge des manifestations de 2017-2018, pour la plus grande partie en 2018. Maintenant, on sait qu'à un moment donné, les chefs d'État de la CEDEAO se sont invités dans les discussions au Togo. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné à retourner les voir pour dire voilà la situation par rapport à ce qui se passe, si tant bien même qu'aujourd'hui la C14 n'existe plus?
Alors, justement, vous parlez de la C14. Il y a exactement 14 détenus qui sont en prison dans le cadre des manifestations de la C14. Le reste est venu après, dans le cadre de l'affaire Tigre Révolution et des cas au Molo, qui sont venus de vacances de la diaspora et qui ont été arrêtés. Et le cas de Pacha également, Nyasimbe, qui est dans tout ce lot-là. Donc, les 93, c'est ça, et à peu près le profil. Mais vous savez que le président Diomaye Faye du Sénégal, lorsqu'il a assisté au sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja, je crois que c'était en juillet, il a dit ceci. Il a interpellé ses pairs en leur disant « Il faut que les États respectent les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. » Que les États respectent les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO. Ça veut dire que l'organisation est parfaitement consciente de cette situation-là. Et donc, oui, et non seulement la Cour de justice de la CEDEAO connaît cette situation, D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas longtemps, quelques semaines, cette même cour a encore condamné l'État togolais pour non-exécution de décisions préalables qui ont été prises en faveur d'un citoyen togolais. Donc, les instances sous-régionales connaissent cette situation au Togo.
Voilà. Et peut-être une dernière préoccupation sur ce volet. Vous avez eu à visiter les détenus politiques. Est-ce que vous avez rencontré Madame Feu Agba, Françoise Eko accusée?
Non, nous ne l'avons pas rencontrée personnellement.
D'accord. Alors, et pour le fait que vous déclarez qu'il y a justement alors de détenus politiques et le camp en face dit qu'il n'y a pas alors de détenus politiques, finalement, est-ce que ce n'est pas une question de sémantique puisque ça crée un peu de confusion dans la tête des Togolais.
Ne dites pas cela, s'il vous plaît. Ne ramenez pas le sort brisé des Togolais à une question de sémantique. Nous parlons de la vie des gens. Et quand il y a des décisions qu'on refuse d'exécuter, mais ce n'est pas une question de sémantique, ce sont des faits. On les maintient en prison en dépit des décisions de justice qui doivent être respectées. Alors, si on veut nous démentir en disant qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais on n'a qu'à exécuter les décisions de justice. Les gens qui sont gardés pendant des années sans aucun jugement, sans qu'ils passent devant le juge pour un procès. Mais c'est attentatoire à leur liberté. C'est les droits humains qui ne sont pas respectés. Mais tout ça sont autant de raisons de les libérer ici et maintenant. Donc, les ministres peuvent venir faire leur déclaration sur les réseaux, sur les médias. Ça n'enlève en rien la réalité des faits. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont arrêtés, ils ne savent même pas pourquoi on les a arrêtés. Ils sortent d'une pharmacie, on les arrête. Ils sont chez eux, on vient les arrêter. Ils sont en marge d'une manifestation, on les arrête. Et derrière, on leur met des inculpations qui n'ont ni tête ni queue. Voyez-vous ? Alors qu'il y a énormément d'enquêtes policières qui sont ouvertes depuis des années sur des jeunes qu'on a tués pendant les manifestations. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun résultat. Donc, je pense que ce gouvernement-là continue de se discréditer et continue de malmener les Togolais. Il faut que cela s'arrête.
D'accord. Abbas.
Je pense que toutes ces questions ont été certainement prises en compte. Mais ce que je vais dire, pour qu'il bénéficie d'une grâce présidentielle, il faudrait qu'il soit jugé d'abord.
Condamné.
Pour le moment, et condamné. Voilà, donc même, ils ne sont pas encore jugés. Pour qu'il bénéficie de cette grâce présidentielle, est-ce que vous menez des démarches dans ce sens, au moins pour qu'ils savent de quoi ils sont accusés? Parce que les gens sont là, on dit que c'est des détenus de droit commun, de l'autre côté, on dit que c'est des détenus politiques. Aujourd'hui, les gens sont en prison. Finalement, vous avez dit tout à l'heure qu'on leur a mis des délits et qui ne correspondent pas par rapport à ce qu'ils sont là-bas. Donc, il veut dire qu'on est dans le flou aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de mener des démarches, surtout au niveau des avocats? Les avocats n'ont qu'à mettre la pression pour que au moins les détenus là soient jugés. Parce que vous ne pouvez pas dire que les avocats sont lassés de leurs choses et que ils ont atteint une limite. Parce qu'un avocat, c'est comme un médecin. Il doit assister son malade jusqu'à la fin. Donc, s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne veut pas aller jusqu'au bout. Donc, quelles sont les démarches que vous menez au niveau des avocats? Est-ce que vous avez des discussions entre vous et les avocats pour voir dans quelle mesure on peut les juger avant de pouvoir obtenir la grâce présidentielle?
D'accord, monsieur Olympio.
Ben écoutez, les avocats n'attendent pas les défenseurs des droits humains pour faire leur travail. Ceux qui défendent les détenus politiques sont consciencieux. Ce sont des professionnels qui se battent tous les jours pour améliorer le sort des détenus politiques. Mais, je disais tantôt, pour ceux qui sont allés jusqu'à la Cour de justice de la CEDEAO et qui ont obtenu des décisions en faveur de leurs clients, ces décisions, l'État togolais refuse de les exécuter. Maintenant, pour les autres qui ne sont pas encore jugés, mais c'est simplement la volonté des magistrats. Et les avocats font toujours les pieds et des mains pour que au moins une date de procès soit fixée et que les gens soient situés de manière contradictoire sur leur sort. Même ça, ils ne veulent pas le faire. On se contente de garder les gens en prison simplement pour donner une leçon au peuple togolais, simplement pour intimider le peuple togolais, simplement pour dire aux gens, si vous faites ceci, si vous contestez notre pouvoir, voici ce qui va vous arriver. On ne peut pas diriger un peuple de cette manière-là, avec la répression, avec l'intimidation, et simplement en brisant la vie des gens.
Alors, intéressant maintenant, je sais que vous avez une question.
C'est par rapport à la déclaration de M. Olympio tout à l'heure, il y a une idée qui m'est arrivée, parce que dans l'opinion, il se murmure que ces détenus politiques-là sont des otages du chef de l'État, Faure Gnassingbé, et que c'est lui qui a la manette qui manipule la justice. Est-ce que vous avez l'impression, vous partagez cet avis?
Moi, je pense que quand on voit comment les magistrats montrent leur impuissance face à ces situations, ben, on se demande tout naturellement que les instructions viennent d'ailleurs. Si les instructions ne venaient pas d'ailleurs, moi je suis persuadé que les cas dont nous sommes en train de parler aujourd'hui seraient passés en jugement depuis longtemps. Mais 6 ans après, les gens ne savent pas pourquoi on les a arrêtés. Ça veut dire qu'il y a une décision politique. La décision politique, mais ça relève de ceux qui dirigent le pays. Ça relève du chef de l'État.
Est-ce que vous avez saisi dans la foulée la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH?
Vous savez, personnellement, cette commission, celle qui est en place aujourd'hui, je suis un peu attristé par son fonctionnement.
Pourquoi ?
Parce que cette commission-là ne joue pas son rôle. Il ne faut pas oublier que cette commission est dirigée par quelqu'un qui défendait encore il y a quelque temps les intérêts de l'État togolais. C'est ce mélange des genres, c'est ce conflit d'intérêts qui ne donne plus de crédibilité à cet organisme-là.
Alors, intéressant maintenant cette nouvelle constitution, parce qu'on sait que vous êtes contre, vous luttez même d'ailleurs pour le retour à l'ancienne constitution. Je veux bien parler alors de la constitution de 1992. Et même quand on écoute parler même d'ailleurs de votre front, le front c'est tous pas ma constitution. Et tout récemment, avec une rencontre de l'ANC, c'était le samedi dernier, le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, a déclaré qu'ils veulent aussi faire une remobilisation, même d'ailleurs tout autour alors de cette nouvelle constitution. Alors, quand on prend cette remobilisation, comment peut-être alors que ça va se passer? Parce que vous êtes déjà sur le terrain, vous démontrez toujours votre contestation à cette nouvelle constitution. Finalement, on pourra dire quand même que vous avez un appui.
Ouais, écoutez, je ne vais pas m'exprimer à la place d'autres partis politiques. Nous avons vu cette déclaration que vous évoquez. Je pense que c'est une bonne chose que les gens se mobilisent. La question de la Constitution est une question qui est extrêmement importante. Et la manière dont la Constitution a été changée, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons laisser courir jusqu'à ce qu'on nous impose cette nouvelle république-là. Il faut se dresser contre cela.
Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Togolais, les populations, ne vous écoutent pas?
Non, je n'ai pas cette impression-là. Vous savez pourquoi? Les Togolais sont les premiers à avoir rejeté cette constitution. Les premiers. Et ils l'ont manifesté, vous savez quand? Le 29 avril 2024. Lorsqu'ils ont refusé d'aller voter alors que tout le monde les appelait à aller voter. C'est ça le premier acte de contestation qui a été posé par les Togolais. Donc, nous allons dans le sens de ce choix des Togolais.
Mais finalement, la mobilisation peine à être prise, puisque quand on voit aujourd'hui vos appels incessants contre cette nouvelle constitution, finalement, c'est comme si vous êtes les seuls dans la BAC. Hein?
Je pense que tout peuple a son temps d'action et son temps de réaction. Moi, je fais souvent référence au peuple tunisien. Tout le monde a vu en 2011 comment le peuple tunisien s'est levé comme un seul homme pour affronter le dictateur Ben Ali. Et c'est parti comment ? Par un incident, je dirais, anodin, d'un jeune qui a été racketté par un policier, un jeune vendeur de légumes, racketté par un policier. Il en avait assez, tellement il était sous pression, stressé, il s'est immolé par le feu et ça a embrasé tout le pays. Aujourd'hui, la Tunisie est encore sous une dictature. Et on voit ce même peuple donner l'impression qu'il ne réagit pas. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne souffrent pas de la situation. Il faut leur laisser le temps. Il faut laisser le temps à chaque peuple. Moi, j'ai confiance au peuple togolais. Et je sais que le peuple togolais aussi fait confiance à nous qui portons aujourd'hui ce message-là. J'ai confiance au peuple togolais parce que je sais qu'il viendra un moment où il va s'exprimer comme il sait le faire. Il a fait dans le passé, il a fait dans le passé récent jusqu'en 2017 et il le fera encore parce qu'aucun peuple au monde ne peut accepter d'être opprimé indéfiniment. Il vient un moment où, eh bien, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase.
D'accord. Alors, Sylvestre, sur ce point, vous titrez à la une de votre journal La Machette hein, ce matin, « Politique togolaise, le silence des frustrés ».
Oui, en effet, vous savez, tout à l'heure, j'ai écouté M. Nathalie Rolitio, là où il a chuté, il dit à un moment donné, si les gens en auront le bol, ils réagiront, vous savez. Tout est parti donc c'est une anecdote d'une visite à une famille où une vieille, hein, elle a déjà fêté ses 70 printemps, et on me présentait comme journaliste, et puis la vieille me demande, d'avoir dit au fond, et bien, elle a dit, mais aujourd'hui, du protoba kochamim bayada. Et puis, elle poursuit en disant, c'est une dame de 70 ans. Alors, ce mot-là, c'est en fait le dénominateur commun de tous les Togolais aujourd'hui. Les gens sont frustrés, mais ils disent, les gens sont brimés, les gens sont offusqués. C'est la manière dont même la gouvernance, les gens en ont ras-le-bol, mais ils ne parlent pas. Vous savez, devant cette situation, en fait, un personnage qui, vous le primez, il vous voit, il ne dit rien. Vous le faites tout, il vous regarde, il ne vous dit rien. C'est un personnage dangereux en réalité, parce que vous ne savez pas ce qu'il mijote. Et en réalité, dès que cette personne aura les moyens, il se dit, bon, la guerre, d'ailleurs, je n'ai rien à perdre. Et tant qu'il n'arrivera pas à avoir satisfaction, il ne se retournera pas. Donc, en réalité, c'est ce que nous voyons. Et puis, la situation que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons déjà vécue. Avant Tipi. C'est-à-dire que tout est morose, on se dit non, c'est fini, on a le boulevard, allons-y. Et patata, un beau matin, Tipi est sorti. Et vous avez vu, on a déploré encore des pertes en vies humaines. Aujourd'hui, nous vivons presque la même situation. Où les gens, il y a tellement de frustration dans le pays. Vous, entre amis, au niveau des maquis ou dans les cabarets, hein, loin des regards indiscrets, les gens se disent non, ça ne va pas, on en a assez, mais ils en font de trop. Même les pasteurs, hein, au niveau donc de l'ordre des églises, les prêtres et tout ça, tout le monde dit ça ne va pas, mais les gens se taisent. C'est pourquoi nous disons quand les gens se taisent, c'est plutôt dangereux que les gens parlent plutôt, au moins ils vont extérioriser leur ras-le-bol, ils vont extérioriser ce qu'ils ressentent. Mais quand ils se taisent, c'est encore plus dangereux parce que le jour où il y aura peut-être le réveil, ça sera compliqué. C'est pourquoi nous invitons en réalité les gouvernants à changer de paradigme en réalité. Il faut changer de paradigme. Parce que si pendant des années, pendant plus de 30 ans, si on prend un peu, si vous voulez, on va s'y construire aux 20 ans, c'est pratiquement la même chose. On opprime, quand les gens veulent parler, on les bastonne. Vous avez vu ce qu'on a, on a le 29 mars, tout ça là a une certaine connotation dans l'esprit des Togolais. Et bon, c'est vrai, je touche du bois, mais ce réveil là peut-être risque de faire mal. Voilà, c'est ce que nous, en fait, c'est une caricature, c'est une idée, c'est une caricature que nous voulons peut-être offrir à tout le monde ce matin.
D'accord.
C'est-à-dire que la situation, bon, on se dit c'est calme, mais c'est plutôt quand ça sera peut-être explosif. Ça ira mal, quoi.
Ah, d'accord. Juste, est-ce que vous arrivez à comprendre cette forme de résignation? Moi, je l'exprime ainsi, de résignation au niveau alors de la population. Quand déjà, avec cette caricature que Sylvestre vient de donner?
Non, tout un peuple a plusieurs facettes. Hein. C'est difficile de le cerner. Et M. Olympio a caricaturé la situation par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie en 2011. Voilà Sylvestre également qui venait de décrire une situation, mais à l'analyse, quand vous interrogez les gens sont prêts peut-être à rebondir, à manifester, sauf que ceux-là qui sont les leaders politiques, qui sont à la tête de la lutte, puissent quand même clairement jouer leur partition.
Et sous d'autres cieux, ce n'était pas avec les hommes politiques que ça a été fait.
Oui, non, c'est un peu la différence des Togolais. On pense qu'à un moment donné, on a commencé une lutte politique pour l'avènement de la démocratie. À un moment donné, les politiques se sont appropriés de la lutte et par moment, ce sont les mêmes politiques qui ont trahi. C'est l'impression que l'opinion a aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, et c'est difficile d'avoir un leadership, un leader charismatique qui puisse quand même drainer la BAC. Vous faites référence à ce qui se passe sous cieux. C'est vrai, ce ne sont pas les politiques. Mais les acteurs de la société civile arrivent également à jouer pleinement leur partition pour rembaisser des tendances comme celles que nous avons au Togo. Maintenant, si les Togolais arrivent à comprendre que, au-delà de toute considération, ce n'est pas un leader politique qui viendra changer quoi que ce soit, que la destinée, le destin même de leur avenir se trouve dans leurs propres mains, je pense qu'après ce moment-là, et ça va marcher. Mais je pense également que c'est une question de conscientisation, de communication, de sensibilisation. Bon, c'était politique le font déjà sur le terrain en disant que c'est pas moi, c'est pas nous qui viendront changer quoi que ce soit.
D'accord.
Le camp de ce peuple-là, si véritablement le peuple veut véritablement...
Quand je parle alors de résignation, je vois même d'ailleurs au niveau des organisations de la société civile, finalement, quand on parle même d'ailleurs de ces questions de vie chère, c'est à peine qu'on pond même juste un communiqué sur les médias et tout, et les médias qui s'en saisissent, c'est justement alors pour faire le relais de l'information, et c'est fini. Alors finalement, on pense même d'ailleurs qu'on n'a pas de société civile.
Ah oui, il n'y en a pas. La société civile est déjà dépolarisée. La situation décrite par Sylvestre, la manchette aujourd'hui, je ne pense pas que c'est du nouveau. Hein. Parce qu'avant 90, oui, c'était une situation qui se présentait. Manque de liberté d'expression, manque d'opinion, tout ça là. Et les gens se sont levés. Ce n'était pas les politiques qui étaient devant. C'est des organisations de la société civile, avant la création des partis politiques même, qui ont engagé ces mouvements pour dire non, ça suffit. Avec la chute du mur de Berlin, avec on dit il faut que les Africains fassent la démocratie. C'était sous le président.
Le discours de la Baule.
Donc il faut que ça passe ici. Et en ce moment, le silence était beaucoup pire qu'aujourd'hui. On a envoyé même des délégations. Le chef de l'État, Feyadema, avait envoyé même des gens pour aller consulter leur population à l'intérieur du pays. Et on est venu lui dire que ça va. Mais, quelques jours après, ça a déclenché. Parce que c'était le silence-là. Aujourd'hui, quand ça a déclenché en 90, la population qui suivait avait un grand espoir que les choses allaient être allées mieux, allaient changer.
Tout à fait.
Mais tout à l'heure, on parle de mutisme, de l'inefficacité de l'opposition, de l'inefficacité des organisations de la société civile. Parce que après cette lutte qui a commencé, il a commencé par avoir la bipolarisation. On a fait naître même des associations pour contrer d'autres associations, des sociétés civiles pour contrer d'autres sociétés civiles.
Tout à fait.
Et à la longue, on a vu ce qui s'est passé jusqu'en 2014 où l'opposition s'est levée, les populations se retrouvaient derrière elle pour changer tout. Mais finalement, lorsque vous suivez l'histoire de ces révolutions qui ont commencé depuis 1990, même depuis 1989-90, jusqu'à ce jour, c'est que quand la lassitude de ces populations vient du fait que il n'y a pas un leader aujourd'hui, comme le dit. Il n'y a pas un leader aujourd'hui qui va mener cette lutte-là. En 2017, les gens étaient fatigués. Tout le monde était dessus. Quand subitement, quelqu'un a surgi. Et vous avez vu comment le peuple est sorti pour dire que voilà, il y a du nouveau maintenant. Que les autres, ce n'est pas ça. Mais maintenant, il y a du nouveau à Chadam. L'effet typique à Chadam, c'est resté où? Aujourd'hui, lui aussi, il est parti.
Et tout ceci là a amené, a fait du fait que en 2020, il y a eu découragement de la population, il y a eu scission, et ça fait qu'il y a des gens qui sont actuellement en prison et qui se disent que personne ne se soucie de nous. Si il y a mobilisation, que nous aussi nous sortons, si on nous arrête, cette opposition-là ne va rien faire pour nous. C'est ça qui a effrité la lutte aujourd'hui. Et cette situation décrite par la manchette, je pense que il faudra la mûrir et voir de telle sorte comment ça va se passer, parce qu'on a entendu ici, on ne sait pas, il y a les services de renseignement, tout ça là, qui renseigne ce qui se passe par ici, par là. Mais on a dit qu'il n'y aura jamais plus de
19 août 2017
ici. Donc aujourd'hui, il faut mûrir aussi la réflexion. Au niveau de l'opposition, on a qu'à aussi voir est-ce que nous avons quelqu'un qui peut faire face. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un pouvoir, un régime, et en face, il n'y a pas une opposition très forte. Ça n'arrange même pas aussi le régime en place.
D'accord. Alors, oui, M. Olympio, est-ce que vous arrivez à comprendre vraiment la situation? Parce que, déjà, quand on prend le peuple togolais aujourd'hui, enfin, quand on prend les Togolais, et c'est vrai, vous allez écouter que non, ça ne va pas, ça ne, il y a ceci, il y a cela, ça dit, on décrit un certain nombre de situations, mais finalement, au même moment, on est là, dans une résignation, si je répète, même d'ailleurs mon mot. Est-ce que vous, en tant que politique, vous n'êtes pas aussi responsable de cela?
Mais Justin a dit quelque chose d'important tout à l'heure. Il a parlé de la trahison des leaders. C'est pour ça que lorsque nous avons engagé la contestation de la Constitution avec le Front Touche pas ma Constitution, nous avons décidé de lutter pour un leadership différent. Le leadership différent que nous avons que nous sommes en train de promouvoir, c'est le fait de conduire la lutte différemment.
Mais est-ce que ça aussi, ça marche?
Mais c'est une construction. C'est une construction qui est basée sur le fait que nous devons sortir du schéma de la défense des intérêts partisans. Mm-hmm. Les politiques, les organisations politiques, les partis politiques, jusqu'à présent, depuis 90, se sont toujours battus pour leur parti, pour les idées de leur parti, pour le bénéfice de leur parti. C'est ça qui a toujours tué la lutte. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas de ces dernières années. Ça date de 90. Mmh. Donc, quand on parle de la trahison des leaders, ça remonte à ce temps-là. C'est aussi vieux que la lutte. Donc, pendant 30 ans, ce sont ces calculs partisans qui ont toujours affaibli la lutte. Jusqu'en 2020 et jusqu'à aujourd'hui, 2024. Donc, c'est pour ça que nous disons que pour redonner la crédibilité à la lutte, il ne faut plus que ce soit une lutte enfermée dans les partis politiques. Il faut que ce soit une lutte ouverte, une lutte citoyenne. Pour que chacun défende le bien public, pour que chacun défende l'intérêt général. Ça fait 10 ans que je dis la même chose. Parce que nous avons tous compris que les élections, qui est la défense des couleurs d'un parti ou d'un groupe de partis, ça ne nous a rien apporté et ça ne va rien nous apporter dans ces conditions.
Alors, justement, sur ce point, il y a le ministre Trimois qui déclarait tout récemment qu'ils vont vous aider à ce que vous réorganisez. Est-ce que finalement, ce n'est pas une main tendue que vous devez accepter pour une réorganisation de l'opposition?
C'est une main empoisonnée. Et les propos de ce monsieur sont dégoûtants. Parce que c'est l'humiliation des gens qui sont en face. Parce que c'est la discréditation des gens. On apporte le discrédit sur des gens qui luttent pour la liberté. Vous savez, quand on est imbu de son pouvoir et que on rentre dans une démesure, on ne connaît plus la mesure des choses, on se permet tout et on se prend pour Dieu sur terre. Mais il y a une limite à tout. Et quand cette limite va arriver, certaines personnes ne seront plus devant le peuple togolais. personne ne tiendra devant le raz-de-marée que le peuple togolais va réaliser le moment venu.
Alors, monsieur Olympio, je voudrais qu'on s'intéresse à la question des législatives au Sénégal pour clôturer cet entretien. Alors, c'était le dimanche dernier, cette législative anticipée, et on a vu quand même que la coalition PASTEF a en quelque sorte raflé pratiquement la majorité des sièges. On parle de 129 sièges sur les 165. Alors, aujourd'hui, quelles leçons nous devons tirer de ces élections au Sénégal?
Moi, je voudrais tirer deux enseignements de l'expérience sénégalaise. Le premier enseignement, c'est que en 2000, en 2012 et en 2024, quand il s'est agi de faire partir Abdou Diouf, de faire partir Abdoulaye Wade et de faire partir Macky Sall, le peuple sénégalais, les politiques, la société civile, tout le monde se met ensemble. Tout le monde. Et quand ils règlent le problème, après, ils recommencent leurs oppositions. C'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, qui est extrêmement important, c'est le comportement des magistrats sénégalais. Si la Cour constitutionnelle n'avait pas mis un frein à la volonté de Macky Sall de briguer un troisième mandat, eh bien, ce monsieur aurait été encore au pouvoir parce qu'il aurait manipulé les élections pour conserver le pouvoir. Donc, le rôle des institutions aussi est important. Malheureusement, au Togo, nous n'avons pas encore des magistrats courageux pour assumer leurs prérogatives. Ça aussi, c'est un point faible dans la lutte que le peuple togolais mène. Parce que toutes les institutions sont sous le contrôle de l'exécutif et personne, tout le monde a peur. Les responsables des institutions, ils ont peur, ils sont en otage et ils ne peuvent pas aider le peuple. Le peuple togolais est abandonné par les institutions. C'est pour ça que nous nous battons. Nous voulons être au moins ceux qui portent encore de la voix, qui contestent, qui dénoncent et qui encouragent le peuple à prendre son destin en main.
D'accord. Monsieur Olympio, il y a beaucoup de Togolais qui vous suivent actuellement. Ils ont certainement des questions pour vous. Nous allons maintenant leur donner aussi la parole pour qu'ils vous posent des questions. C'est sur nos deux numéros, 90-86-35-35 ou 91-36-63-75. Mais ils peuvent aussi interagir avec nous à travers notre numéro WhatsApp 90-45-78-57 pour poser des questions via WhatsApp à notre invité Nathanaël Olympio, qui est le président du parti des Togolais et aussi porte-parole alors de Front Touche pas à ma constitution. Mais si vous permettez, nous observons une pause et nous revenons juste après pour donner la parole aux auditeurs.
93.5 Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô? Allô? Bonjour,
Basile. Bonjour, Basile. Comment vous allez?
Eh, c'est bon, les gens, comme d'habitude.
D'accord. Allez-y.
Et salut, mon frère Olympio.
Bonjour.
C'est lui qui est là, non?
Oui, c'est Nathanaël Olympio.
Oui, je dis bonjour.
Oui, c'est Olympio, non?
Il vous dit bonjour depuis Basile.
Oui, oui. Pascal, je viens à vous en vous disant pourquoi vous avez dit que M. Olympio, il se retrouve pratiquement seul. Je ne suis pas d'accord sur ce que vous avez dit.
Non, mais c'est une question que j'ai posée, Basile. J'ai le droit d'abord de poser la question.
Ah, d'accord. Il n'est pas seul, hein? Nous sommes tous là, on ne change pas une position de cette manière. Manière dont le chef de l'État a dit aujourd'hui que ce que je veux, je vais faire. Si quelqu'un ne veut pas, les militaires vont sortir, tout ça là. Ce n'est pas comme ça on gouverne un pays. Est-ce que vous comprenez? Ouais, ça ne marche pas comme ça. Et vos confrères qui vont venir défendre l'indépendable, on s'en fout. Un pays, le Sénégal vient de faire encore une élection. C'est comme ça que un pays peut rester et que les gens peuvent manger même une seule fois par jour. C'est pas ce biais-là. On peut arriver à manger une fois. Celui qui est là, il est là, il est toujours là. Il va faire ce qu'il veut. Il fait qu'on ne lui demande. C'est-à-dire qu'il ne rendra pas compte à quelqu'un. C'est ce que nous ne voulons pas. Monsieur Nathaniel Olepio là-bas, la lutte qu'il mène depuis, quand il est arrivé sur la scène, bien sûr, il n'était pas là les débuts. Nous, on était là depuis les débuts. Mais quand il est venu, ce qu'il fait jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on mène une lutte. Bon, voilà quoi. Pourquoi est-ce que le président de la République, lui, est là, il dit que les militaires sont là pour sortir quand lui fait ce qui n'est pas bon, et les militaires vont sortir, et à cause de ça, on ne peut pas contester. Maintenant, ma question à M. Olympio, qu'est-ce que vous attendez? Ne serait-ce que sur la vigueur que le président de la République nous a imposé de gré ou de force. Qu'est-ce que vous attendez pour faire une pour nous appeler pour une mobilisation sur ça? Ça, quand même, il s'agit du manger de tout un chacun.
D'accord.
Pas de la minorité quand même. Hein.
Oui, merci beaucoup Basile. Merci. Vous avez été déjà très long. Merci pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô? Allô? 90-86-35-35-91-36-63-115. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, il n'est pas en ligne. Je rappelle que vous pouvez également nous écrire sur 90-45-78-57. Nous recevons cet auditeur. Allô?
Bonjour, mon frère Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien chez vous.
Ça va aussi, par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est...
Benoît Dagoy.
Ah, Benoît. Allez-y.
Bon, moi, je voudrais poser une question à l'invité. Est-ce qu'ils sont, s'ils sont aujourd'hui au pouvoir, ils vont ramener le Togo à la 4e République ou bien ils vont rentrer dans la 5e République? Et aussi, au Togo, que le président, il a dit, il y aura un changement, ce serait dans une île. C'est que ce qui vient de se passer au Sénégal, le Sénégal, il faut avoir un programme. Le Sénégal, par exemple, c'est ce qui s'est passé au Togo en 2017, au lieu de faire un programme à affronter une île, et ils sont là à discuter la couleur de leur t-shirt. C'est pas ça. C'est que il faut être à l'écoute du peuple, il faut aller aux besoins du peuple. Et je termine par, on dit consommer local, qu'il y a actuellement l'huile en haut de prix, et l'haricot, mais le premier ministre, hier, je pense, au lieu de la première femme, quoi, au sein du l'UNIR, au lieu de nous parler comment... elle va faire pour réduire le coût de l'huile de l'haricot. On dit, dans l'usine de chocolat, on dit de consommer les produits togolais. Est-ce que moi, je veux manger le riz ou bien la pâte? La première, une pâte de chocolat, donc, bonne journée.
Et bonne journée à toi aussi, Benoît. 90-86-35-35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Votre nom, c'est?
Nyamavo.
Ah, monsieur Nyamavo.
Oui.
Allez-y.
Je salue Nathalie Olympio, du courage à lui. Hein.
Bonjour.
Le peuple n'est pas fatigué. Le peuple le regarde, cette politique très drôle là. Les gens pensent même que à vous, mais c'est de leur côté que c'est plus drôle. Le peuple ne parle pas, le chef de l'État ne parle pas, la politique passe. J'avais croisé une femme au lendemain des élections. Il y a une boisson d'or, mais pourquoi vous n'êtes pas allé voter? Écoutez-moi. Pas combien? Oh, et moi aussi. Or,
on a mis la terre, la terre, au sein du peuple. Le peuple a désisté. Ce n'est pas parce que c'est la politique qui est bonne. Mais je voulais poser une petite question à Nathanaël.
Oui, allez-y.
Les opposants qui sont allés aux élections ont-ils bien fait ou bien ils auraient mieux suivre le peuple comme la décision du peuple? Pour moi, j'avais dit à cette dame que c'est mieux pour faire barrage aux ailes marchandes du pouvoir. Sinon, ils vont bien faire les choses là-bas, on va dire que c'est le soutien qui est avec eux. J'attends votre réponse.
D'accord, merci. Merci, Nyamavo, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour. Oui, vas-y.
Je reviens comme ça.
Oui, mais il semble que votre radio, votre radio à côté de vous fait un peu de bruit.
Pour ajouter que je parlais de la mobilisation sur la vie chère seule. Parce que quand on dit que c'est pour venir prendre le pouvoir sur celui qui est là actuellement, il peut sortir les militaires pour tuer les gens. Bon, maintenant, la vie chère. Vous pouvez sillonner le Togo, sensibiliser sur la vie chère au moins. Pourquoi vous ne voulez pas saisir des occasions? Ce pouvoir nous a tellement abruti tous dans le pays-là qu'on ne peut pas avoir un dessus sur lui. La vie chère, c'est aujourd'hui quelque chose que tout le monde voit. Pourquoi vous ne pouvez pas au moins agir sur ça? Je suis très sérieux quand je vous parle comme ça.
Mais on le sent, Basile, que vous êtes sérieux.
Lui, il est quelqu'un qui lutte beaucoup. Qui lutte beaucoup. Pourquoi la vie chère, vous ne pouvez pas agir au moins sur ça?
Franchement. D'accord.
Merci. Mais nous, on a pris que comment ils sont de là, ça va être bien. C'est eux qui viennent nous demander. Mais nous aussi, on n'en a pas.
D'accord.
Comment on va faire?
Oui, mais merci beaucoup, Basile. Merci pour votre intervention. Je pense que un deuxième passage, je pense que c'est déjà bon. Hein. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, allô?
Oui, bonjour. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour. Décidément, il n'a pas de retour. Hein. Et Kiki. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, Canal
FM. Ah, c'est Richard, bonjour, depuis Copenhague.
Bonjour, le grand citoyen d'État. Bonjour à M. Olympion.
Bonjour.
J'aimerais lui poser quelques questions.
Allez-y, Richard.
Vous savez, actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a une polémique. Il est sans savoir qu'il y a un monsieur aux États-Unis qui est lissé dans les listes des opposants les plus corrompus. Il s'appelle Makenda. Bon, j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous faites de natif au Togo? Quelle est votre fonction? De là, sincèrement, quel apport, quelle éducation, qu'est-ce que vous proposez à cette jeunesse? Parce que pour moi, j'ai vu vos limites. Pour 5 ans, comme passé dans ce genre de politique, ça m'a rien donné. Aujourd'hui, quand je quittais le pays, j'avais 23 ans. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Donc, j'ai passé plus de temps au Danemark. Mais à chaque fois, quand je rentre au pays, je sais que beaucoup de choses sont en train de se faire. Je ne dis pas que c'est suffisant, certes, mais c'est pour dire que nous avons quitté de très loin et il y a beaucoup d'efforts à faire. Et j'aimerais aussi dire, j'aimerais vous poser cette question. Tout le temps, parce que quand vous parlez politique, mais cette jeunesse, les gens qui sont en prison, vous dites, des prisonniers politiques. au Mali, par exemple, c'était un réfugié en Suisse. Il n'avait même pas le droit de mettre pied au Togo. Vous connaissez cette position, cette prise de parole. Vous le mentionnez parmi les prisonniers politiques, messieurs et messieurs. Vous voyez, j'aimerais que nous tous, nous puissions apporter notre pierre à la construction du pays.
D'accord.
Faisons-nous individuellement. Là, le pays serait bon à vivre.
Ok, merci beaucoup, Richard. Oui, mais voilà, Richard, vous êtes, vous avez été largement compris par rapport à votre intervention, puisque notre temps avance déjà. Nous allons donner la parole à Nathaniel Olympio de répondre aux différentes questions. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont écrit. Il y a Ibrahim qui nous écrit depuis Sokodé, qui dit bonjour. C'est Ibrahim depuis Sokodé. Est-ce que le régime là est prêt pour faire marche arrière? C'est une question alors de Ibrahim. Je pense que c'est par rapport à la nouvelle constitution. Il y a également Modeste qui nous écrit d'un Tikboudi. Modeste qui écrit que les gouvernants laissent l'arrestation abusive et verront si la population est fatiguée des manifestations ou pas. Alors, Nathaniel Olympio, c'est vrai, les uns et les autres se sont prononcés. Il y a Basile qui posait la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition attend pour lancer peut-être une manifestation sur la vie chère?
Oui, la question de la vie chère, c'est un sujet très épineux qui afflige tous les Togolais. Tous les Togolais sont concernés par ce sujet-là. Et je pense que c'est cette pression que nous exerçons sur le régime. C'est cette sensibilisation que nous sommes en train de faire qui va nous amener à la mobilisation qu'il faut. Nous ne devons plus faire des mobilisations qui ne donnent pas des résultats. C'est pour ça qu'il faut tirer les enseignements de l'expérience passée pour que le jour où les Togolais vont décider de s'exprimer ensemble dans une manifestation, il faut que ça porte des fruits.
D'accord. Il y a aussi Benoît qui vous pose la question de savoir est-ce que vous pensez vraiment arriver à la 4e République avec vos manifestations, c'est-à-dire à la 4e Constitution, c'est-à-dire quand vous dites ne touchez pas à ma Constitution, est-ce que aujourd'hui vous êtes disponible, à travers vos manifestations, est-ce que vraiment on peut revenir vraiment à cette nouvelle, à l'ancienne Constitution?
Je suis précieux, si vous êtes aux affaires.
Si vous êtes aux affaires, bien sûr.
Voilà. Est-ce que vous allez continuer avec la 5e République ou vous allez revenir à la 4e?
À la 4e, voilà.
C'est juste
ça. C'était ça la question.
Le jour où le peuple togolais va reprendre sa souveraineté, en ce moment-là, il va rebâtir tout le socle de la République. Ce sont les besoins du moment qui seront satisfaits. Ce sont les accords que les Togolais vont se donner. C'est ça qui va bâtir la voie sur laquelle le développement va se faire. Il ne s'agit pas de retourner dans le passé pour rester figé dans le passé. Non, ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est la manière dont les choses sont faites. Même si on n'avait pas changé la Constitution, le jour où l'alternance va se produire à la tête de l'État, il est évident que nous devons bâtir un nouveau socle pour notre pays. C'est ça, pour que la gouvernance soit conforme à ce que les Togolais veulent. Donc, la lutte que nous menons, ce n'est pas de ramener le Togo dans ce qui a été décidé en 1992 et de rester figé dans la Constitution de 1992. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est de changer de gouvernance. Le sujet, c'est de se mettre d'accord sur ce que notre constitution doit être.
D'accord.
Si les Togolais décident qu'il faut maintenir la constitution de 1992, mais on va la maintenir. Mais si les Togolais estiment qu'il faut l'améliorer, il faut faire autre chose, c'est ce qui va se faire.
D'accord. Alors, Nyamavro, qu'est-ce que vous pensez des opposants qui ont participé aux dernières législatives?
Là, je pense que c'est un débat passé. Et les Togolais ont tranché. Les Togolais n'ont pas voulu participer.
ces deux messages qu'il y a dans ce acte que les Togolais ont posé. D'abord, ils ont dit au pouvoir que nous n'avons pas confiance dans vos élections, dans votre gouvernance. Deuxièmement, ils ont adressé un message à l'opposition en disant que la manière dont nous conduisons la lutte en voulant prendre le pouvoir par les urnes pour changer les choses, ça ne leur convient pas parce que ça ne donne pas de résultats. Voici les deux enseignements que moi j'ai tirés de l'acte posé par les Togolais.
D'accord.
Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir dire tel a participé, tel n'a pas participé. Mmh. Ce n'est plus le sujet.
Et justement, Richard, lui, depuis Copenhague, Danemark, qui nous écoute, a posé beaucoup de questions. Premièrement, c'est concernant vous en tant que politique. Quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites?
Moi, je suis chef d'entreprise et je n'ai pas d'entreprise au Togo parce que personne ne peut assumer le rôle politique que j'assume et avoir une entreprise au Togo qui fonctionne correctement.
Toi, vous avez peur?
Vous prenez l'exemple de professeur David. Avec des amis, ils avaient une clinique qu'il tenait. Et quand il a engagé son action politique, eh bien, on lui a mis une pression fiscale et il a fermé sa clinique. C'est ce qui arrive aux gens qui prennent des positions politiques opposées à ce régime-là. Ils ne peuvent mener aucune activité économique qui soit prospère. D'accord ? Et ce n'est pas le rôle de l'opposition de donner du travail à la jeunesse. Ce n'est pas son rôle. Il ne faut pas que les gens qui sont à l'extérieur nous appellent ici pour nous dire qu'est-ce que vous faites à la jeunesse. Ce que nous faisons, c'est de nous battre pour que le régime fasse son travail et mette à la disposition de la jeunesse des emplois. Où sont les emplois qui ont été promis? 500 000 emplois ont été promis à la jeunesse togolaise. C'est où? C'est de la poudre aux yeux. Ils vendent du vent. Ça veut dire qu'ils manipulent la jeunesse. C'est contre ça qu'on se bat. Et c'est le rôle des gens qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance.
D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Moi, je vais simplement conclure en disant que et ce pourquoi nous nous battons, c'est pour que les Togolais vivent mieux. Ce pourquoi nous nous battons, c'est pour que les Togolais aient une vie décente. Et ce pourquoi nous nous battons, c'est que les Togolais puissent s'exprimer, puissent mettre en œuvre leur génie créateur dans la liberté de penser, dans la liberté quotidienne. D'accord. C'est pour ça que nous mobilisons la population.
D'accord, Sylvestre, nous sommes à la fin de cette émission.
Oui, nous sommes à la fin, donc bon après-midi.
Merci, Justin.
Oui, merci, mais peut-être qu'il y a un sujet sur lequel je n'ai pas eu le temps de se prononcer, tellement sur la question actuelle qui fait débat. Mais quoi qu'on dise, si l'occasion se présente, on aura le temps
On
dit que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est le contrat social. À partir de ce moment-là, c'est le peuple qui doit quand même donner l'orientation de la façon dont il compte être gouverné. Donc, d'accord, c'est ce qui impose ce qu'on appelle le référendum, sur ce qu'on appelle également en droit le paralysme des formes. Tant qu'on n'a pas respecté ça, on aura le temps forcément de combattre cette constitution qui est imposée aux Togolais sur la base de la 5e République.
D'accord. Merci, Justin. Oui, Abbas.
Voilà, après-midi.
Merci. Alors, je lis cette réaction rapidement alors de ce Togolais aussi qui nous suit depuis Agouet. Vous savez, les Togolais veulent aller au paradis, mais ne veulent pas mourir. On va appeler pour la vie chère. Ils ne vont pas sortir. Merci. C'est Amétépé depuis Agouet. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous, Nathanaël Olympio, d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Sylvestre Béni, d'être passé dans cette émission. Merci, Justin Anani, d'être passé aussi dans cette émission. Abbas Issaka, merci à vous d'être passé aussi dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés pour contribuer à ce débat à travers vos réflexions. Merci à vous. Qui se sera assuré la mise en onde? La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoutia. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, jeudi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.